à Tchernobyl, comme à Gramma, Antendoc 104.1. Antendoc, radio, pas de frontières.
Hey, bonjour auditrices et auditeurs d'Antenne Doc, bienvenue dans ce direct qu'on vous avait annoncé cette semaine, un direct que je vous fais en compagnie de Thierry Ribaud. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Et vous êtes en compagnie de Philippe Cruzel. Bonjour Philippe.
Bonjour, bonjour aux auditeurs.
Alors, pour vous présenter tous les deux, alors d'une part pour Philippe Cruzel, donc toi tu fais partie du réseau citoyen de surveillance de la radioactivité de Golfech Le Blayais, oui. Et ce soir, en partenariat avec la Librétech Le Droit à la Paresse à Cahors, vous organisez une soirée résistance et non résilience, pour le titre de la soirée, durant laquelle on pourra voir un film co-réalisé par Thierry Ribaud, en compagnie d'Alain Solière. Le film en question, c'est Gambaro. Et alors ce film, je vais laisser Thierry nous en parler. Juste avant, peut-être pour vous présenter Thierry, vous êtes chercheur au CNRS en sciences sociales notamment. Vous avez écrit un livre en 2021 contre la résilience à Fukushima et ailleurs. Et là, on commence à comprendre de quoi on va parler quand on dit le titre de ce film, hein, quand on parle de Fukushima, avec la catastrophe nucléaire, j'ai envie de dire, qui est toujours en cours actuellement là-bas, qui n'a pas cessé, hein, malgré ce qu'on peut en entendre dire. Et on va parler de ces principes de résistance et non résilience. Alors peut-être le film, pour présenter rapidement le film qu'on va voir ce soir, Thierry.
Oui, en fait, c'est un film que j'ai co-réalisé avec Alain Solière. En fait, on a commencé à travailler dessus en 2012. On a filmé en fin 2012, pour être précis. Et puis, on a mis quand même un an et demi avant de le finir. C'était un gros travail. Mais c'est un film documentaire de recherche qui n'est pas donc une fiction, hein, qui est bien un film... sur le terrain, qui est en fait issu de mes propres, qui est relié directement à mes propres travaux, puisque je travaillais au Japon en tant que chercheur en sciences sociales au CNRS au moment de l'accident de Fukushima. En fait, plus précisément, j'étais pour une deuxième période. J'ai passé 14 ans au Japon, dont une deuxième période entre 2007 et 2015. Donc cette période a été malheureusement ponctuée par le 11 mars 2011 avec l'accident nucléaire de la centrale de Fukushima Daiichi. Donc, voilà.
Alors ce film, donc, c'est un film qui nous parle des survivants d'une catastrophe et de tout, de comment on survit à cette catastrophe. Et j'imagine qu'on passe par plusieurs états. Je me rappelle au moment des annonces, hein, deux jours après l'annonce de la catastrophe, les seuils d'acceptabilité de la radioactivité étaient déjà relevés au niveau de Fukushima. Je me rappelle des choses comme ça, oui, qui font petit à petit mettre le peuple dans une situation de résilience, j'ai envie de dire.
Oui, effectivement, ça c'est un des éléments parmi tant d'autres qui ont constitué cette politique nationale de résilience, elle s'appelait comme ça, c'est pas moi qui ai inventé l'appellation, c'est bien comme ça que les pouvoirs publics l'ont appelé, mais pour revenir deux mots sur le film, en fait, il s'agit de, nous avons en fait au fur et à mesure de nos rencontres, on a eu 30 heures de filmage, hein, pour vous dire la vérité. On a donc 30 heures de, comme on dit vulgairement, de rush. Je ne passe mot concernant ces témoignages que nous avons recueillis, qui sont très riches. Même, on ne peut pas faire un documentaire aussi long. On en a fait un documentaire de 52 minutes. Pour dire que donc ce sont des gens qui soit sont restés, soit ont fui les zones contaminées et que nous avons donc rencontrées et qui nous parlent finalement à la fois bien sûr de leur stupeur, de leur effroi, de leur désarroi. Mais en même temps, je veux tout de suite préciser qu'il ne s'agit absolument pas d'un film pleurnichard sur les victimes de la catastrophe. Je me permets d'utiliser le mot pleurnichard parce que en fait je pense que si vous voulez la notion de pitié concernant les victimes d'une catastrophe ou d'une autre, comme disait le philosophe allemand Adorno, la pitié n'est jamais suffisante. Et je pense qu'en situation de catastrophe, elle l'est encore moins. Donc il ne s'agit absolument pas d'un film d'apitoiement. Au contraire, il s'agit d'un film qui essaie de montrer comment certaines personnes, bien sûr c'est pas toutes, mais en tout cas celles qu'on a essayé de rencontrer, n'ont pas essayé de surmonter la catastrophe, soi-disant en rebondissant sur elle, et c'est-à-dire en tirant du bonheur d'un malheur. Hein, c'est l'attitude résiliente. On a essayé de voir ces gens qui, en fait, au contraire, bien sûr, avaient été complètement touchés par ce désastre, mais en même temps, prenaient une attitude non pas de résilience, mais de résistance, c'est-à-dire essayaient de finalement de réagir non pas en s'adaptant au désastre, mais en prenant une posture de critique par rapport à ce qui venait d'arriver et en ne se responsabilisant pas elles-mêmes en tant que victimes, mais en responsabilisant les vrais responsables, c'est-à-dire les politiques qui sont quand même les vrais responsables de cet accident. En fait.
Alors, moi, il y a une question quand même qui me vient, comme ça j'ai envie de vous poser. Si je comprends pourquoi on fuit une zone sinistrée par une catastrophe nucléaire, j'ai du mal à imaginer et à comprendre pourquoi on y reste. Vous avez répondu en partie par ce phénomène de résistance, hein, mais ça m'intrigue beaucoup en fait. Qu'est-ce qui peut animer la force de quelqu'un à rester comme ça sur un territoire malgré ce qui s'y passe, alors qu'on sait que sa vie, sa propre santé est en danger.
Non, encore une fois, nous en fait, les gens. Enfin, moi, je considère que la résistance dans une situation de désastre ne consiste, de désastre nucléaire en tout cas, ne consiste certainement pas à rester sur les zones contaminées. Alors ça, non.
D'accord.
Non. Pour moi, on aura l'occasion d'en reparler, mais quand je dis pour moi, d'ailleurs, c'est pas pour moi, c'est pas ma petite pensée personnelle sur la question. C'est l'observation d'une catastrophe réelle, encore une fois. Là on n'est pas en train de parler de scénario, de PPI, de CODIRPA et de toutes ces choses. On est en train de parler d'une catastrophe réelle. Hein. Donc, on est sur du réel. C'est pas de la fiction, ni de la projection, ni de la modélisation. Eh bien, je considère qu'en fait, ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, les gens qui pouvaient véritablement se mettre en position de résistance, c'était ceux qui avaient fui. Parce qu'en fait, c'est un peu comme avec le maquis, si vous voulez. Prendre le maquis n'est pas fuir l'ennemi, c'est prendre du recul pour pouvoir mieux l'attaquer.
Mmh. D'accord. Oui. Si je peux intervenir, j'ai vu un ou deux films sur Fukushima où justement, ils ont pas mal filmé, il y en a un sur les zones contaminées, où on voit c'est des anciens, je dirais, des personnes âgées qui ont toujours vécu là, elles savent l'âge qu'elles ont, et pour elles, elles restent sur place, parce qu'en plus, ils avaient des animaux, ces gens-là, ils ne voulaient pas les abandonner, etc. Par contre, on sait que maintenant, le gouvernement Jean Brunet aimerait bien que les gens retournent à des zones contaminées, mais il y a des jeunes qui ont des jeunes enfants et tout, et bien, je pense que ce n'est pas ce qu'ils vont faire. Alors, bien sûr, on va peut-être leur couper les vivres, c'est la meilleure des techniques, mais bon, c'est quand même. On voit le vrai visage du lobby nucléaire. Mmh. Et pour la France, si y a un accident majeur, fonctionnera de la même manière, puisque c'était en novembre 2021, à la Magistère, à côté de Golfech. Il y a la commission locale d'information de Golfech et l'autorité de sûreté nucléaire qui ont fait une journée. Débat sur quelle alimentation après un incident nucléaire. Et donc, il y a eu un tour de table. Alors, chacun donnait son avis. J'ai dit, moi, s'il y a un incident nucléaire autour de chez moi, je prends ma valise, je prends mes affaires et je m'en vais. On ne peut pas rester sur place. Parce que là, ils voulaient, c'était quelle alimentation on peut, alors vous, est-ce que vous avez un jardin, est-ce que vous avez des lapins, est-ce que vous avez un poulailler, etc. Et bon, c'est, et moi je leur ai parlé bien sûr de la pectine. Il y avait un chercheur, Monsieur Bateau de l'autorité sur l'atome nucléaire, qui est allé à Tchernobyl et qui disait ouais, mais on verra ça plus tard, etc. Donc on a très bien vu le scénario, ce qu'il y avait derrière. Hein. Donc il y avait 20% de gens qui travaillaient à la centrale, 80% qui n'y travaillaient pas. Et donc moi j'en avais parlé à une conférence où il y avait eu Bernard Laponche. On l'a fait venir en visioconférence à la fête des faucheurs. Quand je lui ai dit ça, il était vert. Il a dit c'est des criminels de voir laisser les gens sur place. Donc ça, on le sait. Donc au Japon, en plus, bon, ils ont une réalité. Nous, on sait ce qui passera. Il faut pas se leurrer.
Au Japon, on se rappelle, enfin moi je me rappelle personnellement, hein, voilà ce qui avait été dit par exemple au niveau du. C'était du thé vert. Du thé vert, c'était une information comme ça, du thé vert qui poussait en zone contaminée. Et le gouvernement japonais demandait donc par patriotisme à ce que ce thé vert soit consommé pour soutenir l'économie locale de Fukushima, et enfin des agriculteurs hein, de cette région, afin qu'ils puissent pouvoir se remettre économiquement de cette catastrophe, et de demander comme ça par espèce de, on va dire, d'élan patriotique de participer à l'économie locale. Je rappelle qu'il y avait des choses comme ça qui avaient été dites aussi sur la zone de Fukushima, pour revenir un petit peu sur...
Et puis les gens quand ils disaient, je crois que j'avais une mission, les gens quand ils disaient... On vient de Fukushima, on les regardait de loin comme des pestiférés. Hein, certains, comme des pestiférés, comme les Ibakusha après Hiroshima. Les gens, ils ont été très, très stigmatisés hein, par la population qui n'était pas concernée.
Absolument. Mmh. Alors, ce que je voudrais dire concernant... bien sûr, vous avez tout à fait raison, Philippe, de préciser, de rappeler qu'en fait, il n'y a pas d'exception japonaise en matière de gestion des catastrophes nucléaires, malheureusement, j'ai envie de dire presque, parce que effectivement, il est tout à fait, il est plus que, il n'est pas probable, d'ailleurs c'est écrit, la doctrine française en matière de post-catastrophique, de gestion d'accidents et des populations, est complètement calquée sur ce qui s'est passé en fait dans le contexte de Fukushima en fait. Donc le cœur, j'ai envie de dire, le cœur de réacteur de la politique publique de post-catastrophique, je dirais maintenant au niveau mondial, dans le domaine du nucléaire, c'est bien la résilience. C'est-à-dire, en fait, et c'est pour ça que moi, j'ai voulu insister pour travailler sur cette catastrophe, parce qu'en fait, je pense qu'elle marque un tournant. C'est-à-dire que l'idée d'accommoder les populations au désastre nucléaire n'est pas une idée nouvelle. Comme vous le savez, à Tchernobyl, on avait déjà cette idée, voire on pourrait même parler d'idéologie, qui en fait transpirait à travers, notamment, bon, pour les gens qui ne connaissent pas le champ du nucléaire, je rappelle, à travers un programme européen à Tchernobyl qui avait été développé entre 1990 jusqu'à 2008, vous souvenez, qui s'appelait ETHOS. Ce fameux programme pilote européen, mais toutefois piloté par les Français, du Commissariat à l'énergie atomique notamment, les fameux...
Il y avait des gens de l'autorité de sûreté nucléaire, il y avait Bateau, et il y était.
Alors voilà, et il y avait les Jacques Lochard, enfin bon, une série de gens. Une série de gens, d'ailleurs, qu'on a retrouvés de manière assez intéressante, en grande partie, plusieurs décennies plus tard, au moment de la gestion pour donner des conseils au gouvernement japonais pour expliquer l'art et la manière d'accommoder les populations japonaises à la situation de catastrophe de Fukushima. Bon, on retrouve les mêmes. Hein, bon, mais donc il y avait bien une idéologie de l'adaptation, de l'accommodation. On parlait d'accommodation. Vous savez, avec ces idées selon lesquelles, eh bien, il fallait apprendre à manger ceci, mais pas cela, à éviter les champignons, à ne pas brûler le bois.
Il y a une histoire sur le lait aussi, le lait de chèvre qui était meilleur, mieux moins la radioactivité que le lait de vache.
Voilà. Donc on était en pleine, je dirais, c'est un peu comme discuter des détails de la couleur du bateau pendant que le bateau est en train de couler.
Vous voyez, c'est exactement ça.
Donc... et c'est ça. Et donc l'accommodation.
Tout en sachant qu'à Fukushima, il y a des ingénieurs d'Orano qui étaient sur place, qui ont pris leur clic, leur claque, qui ont pris le premier avion et qui sont rentrés en France.
Bien sûr.
Hein, il faut pas oublier. C'est pas dangereux la radioactivité, mais en fait nous on part fit ça.
Et oui, on n'est pas égaux. Oui. Et en fait. Donc, mais ce que marque le moment de Fukushima, de l'accident de Fukushima et sa gestion, entre guillemets, avec cette politique de résilience, c'est en fait c'est la mise en place, je dirais que la doctrine de l'accommodation vraiment devient, elle est écrite, elle s'écrit, elle se cristallise autour de cette notion de résilience. Mmh. Alors qu'avant on parlait pas vraiment à Tchernobyl, on n'a pas vraiment parlé de résilience, on parlait d'adaptation, etc. Mais de toute façon, au fond, ça revient un peu au même. Mais ce que je veux dire, c'est que Fukushima marque un tournant parce que ma thèse, c'est que désormais, toute catastrophe, pas seulement les catastrophes nucléaires, mais toute catastrophe sera gérée à l'aide de cette doctrine de la résilience.
Oui, c'est là où ce que je voulais dire à un moment donné, c'est que là, on parle de seuil d'acceptabilité pour la radioactivité au niveau de la pollution des centrales. Mais cette manière de fonctionner, cette doctrine de la résilience, pour reprendre vos termes, elle est appliquée sur l'ensemble de ce qui nous concerne sur l'alimentation, par exemple. Il y a un texte qui s'appelle le Codex Alimentarius qui recense tout ce qui est acceptable dans l'alimentation humaine et toute la quantité de polluants acceptables. Là encore, il y a quelques jours, dans le nord de la France, il y a eu une catastrophe écologique. Une entreprise va payer une amende. Elle aura lavé son crime en payant l'amende, mais à un moment donné, ce n'est pas là le problème. Ce n'est pas le fait de payer ou de payer des amendes ou des choses comme ça. Le vrai problème, en fait, c'est qui commet ces méfaits écologiques ? Qui sont coupables de tout ça ? Là, au niveau de Fukushima, aujourd'hui, TEPCO, qu'est-ce qu'il en est encore de TEPCO aujourd'hui ? Comment ça se fait que cette entreprise puisse encore fonctionner malgré ce qui s'est passé ?
Oui, il y a le qui est responsable et il y a aussi, et plus largement, alors, donc, bien sûr, il y a la question de responsabilisation des entités, on va dire, sociales et économiques ou politiques. Ça peut être la responsabilité. Donc, il y a le problème de la mise en responsabilité des responsables, donc qu'ils soient politiques, entreprises. Mais il y a aussi la question de la compréhension des causes des catastrophes, de manière plus large, là, je veux dire. Donc, des mécanismes causaux qui amènent au désastre, notamment ces mécanismes causaux qui trouvent leur origine dans la société industrielle et son usage de technologies mortifères, d'une part, et qui plus est, son usage de technologies parfois encore plus mortifères pour répondre aux désastres causés par les technologies mortifères. N'est-ce pas ? On est dans une espèce de... ça, c'est le coup de... Par exemple, le coup typique, c'est la géo-ingénierie en matière climatique pour répondre au réchauffement climatique. Donc, on a un déraillement climatique qui est lié en grande partie à notre société techno-industrielle et on va y répondre avec de la techno-industrie. Donc, il y a aussi... Et donc, il y a ce double niveau, désigner les responsables et s'attaquer aux causes. Eh bien, l'astuce, si j'ai envie de dire, dramatique, c'est que la résilience, les politiques de résilience permettent en fait de ne s'attaquer ni à l'un ni à l'autre, ni aux uns ni aux autres.
C'est-à-dire qu'en fait, elle nous fait accepter le problème.
Elle nous le fait non seulement accepter, mais c'est un outil. Moi, j'appelle la résilience une technologie du consentement. C'est un outil qui nous permet, en fait, de non seulement nous faire accepter, mais qui permet et consentir, mais qui nous rend responsables nous-mêmes, nous individus, individus. Mais je dirais même qui rend les victimes coupables, en fait.
Alors, j'ai cherché là tout à l'heure avant votre venue. Alors, sur le dictionnaire, qu'est-ce qu'on me dit sur le mot résistance ? Vous me direz ce que vous en pensez de la
résilience, vous voulez dire ?
Non, alors j'ai cherché la définition des deux mots. Alors, j'allais commencer par résistance, que je voulais proposer à résilience. Alors, on me dit que la résistance cherche par des travaux de correction, cherche par des travaux de correction à créer des choses comme un paravalanche, une digue ou des choses comme ça, à s'opposer à un problème, à un aléa. Ça, c'est la résistance. Alors que la résilience vise à réduire au maximum les effets d'un problème. La résistance prétend éliminer les risques en éliminant les aléas. La résilience admet que ce n'est pas possible et qu'il faut vivre avec.
Oui. Alors, je ne sais pas où vous avez trouvé ces définitions, mais elles sont, de toute façon, elles sont conformes.
Elles sont impeccables.
Elles sont conformes. De toute façon, on a beau le prendre, on peut prendre les choses de mille manières, c'est-à-dire on peut essayer de trouver mille autres définitions, on reviendra toujours à la même chose concernant ces deux termes, à savoir que La résilience est c'est véritablement une anti-résistance. C'est-à-dire qu'en fait, elle opère de manière à ne pas réfléchir à une remise en question de l'existant, mais au contraire de se mouler dans l'existant et de l'accepter pour soi-disant le dépasser, voire pour devenir plus fort dans ce déplacement, dans ce dépassement. Ce qui est en fait, alors le problème, c'est que la notion de résilience, elle a du sens, elle est parfaite à sa manière, mais elle est parfaite dans un seul domaine, dans celui des matériaux. C'est-à-dire la résilience dans le domaine de la résistance des matériaux, elle a tout lieu d'être. Et c'est là qu'elle est née d'ailleurs. Soit d'une part au XIXe siècle pour qualifier de résilients les bois les traverses de chemin de fer en bois dont on essayait de comprendre quelles étaient leur capacité de réaction au choc. Et après, ça a été l'étude des métaux pour voir comment ils réagissaient, comment ils absorbaient ou pas les chocs, comment ils retrouvaient un état initial plus ou moins identique après choc, etc. Bon, je dis là, parfait. La résilience a toute sa place. La notion de résilience a toute sa place. Le gros problème, si vous me permettez ce petit rappel historique, c'est qu'en fait... mais qui est nécessaire pour comprendre pourquoi la résilience est frauduleuse de nos jours dans l'utilisation des politiques publiques de résolution des catastrophes. Le problème, c'est que dès les années 40-50, en fait, la notion va être importée en psychologie et en sociologie positive, en psychologie positive aux États-Unis, notamment dans les pays anglo-saxons, pour essayer de réfléchir, selon certains, à la délinquance et à ses déterminants. Et en fait, on va adopter cette notion de résilience pour finalement responsabiliser les individus qui sont dans des situations soi-disant de délinquance, de manière à déculpabiliser en fait la société dans son ensemble. Donc c'est une subjectivisation de la délinquance en fait et des comportements de délinquance qui est opéré à travers la mobilisation de cette notion de résilience dans la psychologie positive des années 50. Et déjà là, je dis, c'est déjà foutu, c'est-à-dire que ça pose un problème. On a sorti le génie de sa bouteille parce que en fait cette notion elle était juste dans son usage concernant la matière, mais elle ne peut pas être juste dans son usage concernant le vivant. Et les sociétés sont vivantes, les humains sont vivants. Et on voit bien à quoi elle va servir dès cette époque. En fait, la notion de résilience va servir à enlever toute responsabilité de la délinquance de la société dans son ensemble. Et qu'est-ce qui va se passer ? En fait, on va... c'est pourquoi d'ailleurs, alors à l'époque, dans les pays anglo-saxons, comme par hasard, ce sont les Noirs qui sont visés par les phénomènes de délinquance. Et on va mettre en place un certain nombre de critères qui sont considérés comme des critères de résilience, donc permettant aux individus de ne pas sombrer dans la délinquance. Et parmi ces critères, de manière assez, je trouve, révélatrice, on va trouver la notion de foi. Donc la foi va être considérée comme un critère de résilience permettant finalement de ne pas tomber dans la délinquance. On croit rêver. Mais on croit encore plus rêver lorsqu'on réalise qu'en fait, 70 ans plus tard, avec un Boris Cyrulnik, on retrouve exactement la même salade, c'est-à-dire la même idée que la foi est un facteur de résilience. Là, je peux citer une phrase de ce Boris Cyrulnik, qui est donc un des papes de la résilience moderne en France, et qui en fait n'a fait que surfer sur une mode américaine, en fait, bon, qu'il a importé chez nous pour gagner de l'argent, on peut le dire.
C'est un psychiatre, un neurologue, ce monsieur aussi.
Tout à fait. Il est neurologue, psychiatre, et il est éthiopathe. Il est surtout, à mon avis, un peu psychopathe. Mais bon, alors, voilà ce qu'il dit. Il dit « La neuroimagerie confirme l'effet thérapeutique de Jésus ». C'est quand même magnifique. 70 ans après, on est revenu à la sociopsychologie de... Mais sauf que là, on a la neuroimagerie maintenant pour mieux identifier encore l'effet thérapeutique de Jésus. Il nous dit, la neuroimagerie nous permet d'expliquer comment ça marche. La foi est donc bel et bien un facteur de résilience. Vous voyez, on tourne en rond. On tourne en rond.
Il a dit ça, c'est ironique.
Tout à fait.
Incroyable.
Oui, ça, c'est dans...
Non, mais je vous crois. Hein.
J'ai donné les références dans mon ouvrage. C'est atterrant. Cela dit, il y a encore pire. Hein. Il y a aussi des pro-cyruniques qui affirment sans vergogne que des choses du genre l'expérience du camp de la mort est un chemin initiatique qui procure une force de vie. Vous voyez, ça, c'est aussi des pro-résilience. Donc, cette idée qu'en fait, il n'y a pas de souffrance en vain, en fait.
8 millions de morts dans les camps de la mort.
Voilà.
On s'y assoit dessus allègrement.
Quand même. Surtout que quand on lit Primo Levi,
oui.
Primo Levi vous révèle qu'en fait, il vous explique calmement qu'en fait, s'il a réchappé des camps de la mort, ça n'a... alors, bien sûr, il ne parle absolument pas de résilience.
Non.
Il dit, si j'ai réchappé des camps de la mort, c'est par hasard.
Mais d'ailleurs, il s'est suicidé 30 ans après son... 30 ans après.
Tout à fait. Alors, ouais. On peut dire que donc, si c'est vraiment la résilience qu'il a aidé à sortir des camps de la mort, la recette a mal fonctionné avec lui, malheureusement.
Oui. Alors, pour recentrer un petit peu ce débat-là sur cette histoire de résilience et dans le domaine de l'énergie nucléaire, peut-être on pourrait, pour éclairer un peu nos auditeurs qui se diraient que nous, là, on est en train de parler de cette résilience au nucléaire alors qu'on n'a pas le choix, qu'il faut bien de l'énergie, tout ça, etc. Quels sont les axes de résilience qu'on va retrouver comme ça dans le domaine public, dans la masse médiatique, qui vont faire petit à petit basculer l'opinion? L'opinion publique, hein, voilà, pour et être favorable au nucléaire. Où est-ce qu'ils sont là, où est-ce qu'elles sont ces informations résilientes, on va dire ça comme ça.
Je ne comprends pas votre question. Excusez-moi. je suis assez
honnête. C'est bien. Moi, j'ai la réponse à ma question, mais j'ai essayé de trouver comment. À quoi je pensais? Je pensais par exemple à l'épisode qu'on a eu là, il n'y a pas très longtemps à Golfech et dans d'autres centrales pendant l'été dernier au niveau de la canicule, quand on a relevé les seuils de rejet radioactif en aval des centrales et sur des phénomènes comme ça, voilà. C'est-à-dire d'expliquer un petit peu aux auditeurs ces moments on transforme un petit peu l'opinion publique ou on module des petites choses, à quels endroits on va les trouver? Comment on nous rend résilients au nucléaire en France?
En France, il n'y a pas de catastrophe nucléaire, il faut le dire. Il n'y en a pas eu, tout à fait.
Ouais, mais on accepte le fait d'en avoir en acceptant d'avoir des centrales. On a déjà quelque part, moi, en ayant une centrale chez moi, j'ai déjà accepté le fait que il peut y avoir un accident.
Bien sûr.
Non,
en fait, la résilience, on la trouve à plein nez. Elle s'exhibe dans les fameux plans particuliers d'intervention, dans les CODIRPA, enfin, toutes ces mesures soi-disant préventives visant à préparer. En fait, tout ce qui vise à préparer les populations à la catastrophe relève déjà de la résilience, puisqu'en fait, se préparer, ce n'est pas répondre aux causes, c'est se préparer à répondre aux effets.
Dire que le nucléaire, c'est une énergie zéro carbone, c'est être résilient.
Évidemment, évidemment, complètement. Complètement.
Même si c'est un mensonge, je ne dis pas que je suis d'accord avec ça, attention.
Même si ce n'est pas vrai que c'est zéro carbone.
Non, mais quand tu
je suis pas d'accord.
Quand tu dis la manière dont il nous faut accepter le nucléaire, il suffit d'écouter les médias, tous les grands médias, c'est mensonge.
Oui, mais ça pour nous, on est d'accord.
Sur cette problématique.
C'est dans le sens, pour nous on est d'accord, c'est-à-dire, mais c'est sortir un petit peu, on va dire, du discours entre spécialistes. Là on est tous les trois, on est assez d'accord, on a conscience des dangers du nucléaire. Mais pour certaines personnes, si on leur dit que le fait de dire que le nucléaire est une énergie zéro carbone, c'est une fake news, il y en a déjà, ils ont trait de conspirationniste.
Oui, mais bon, ça c'est... Non, ce que je veux dire, c'est que tu fais passer...
C'est un peu de pédagogie,
tu fais accepter les choses. Il y a des choses, tu mens de manière honteuse. Et c'est un véritable... Il y a depuis octobre dernier, où Macron a dit « on va relancer le nucléaire hein. ». Il ne faut pas oublier qu'il a dit « on va relancer le nucléaire » pour aussi permettre d'avoir du combustible pour les bombes, puisque... On veut augmenter la puissance nucléaire de la France, hein, qui est en fait le pilier, entre guillemets, de sa grandeur. Puisqu'il y en a, ils parlent de grandeur de la France, mais c'est un petit pays, 67 millions d'habitants, pas très très grand. Et donc, si on n'avait pas la bombe atomique, on ne serait même pas au Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, et pour certains, c'est la grandeur de la France, c'est quelque chose dont on ne peut se passer. Et la radioactivité, bon, on s'assoit dessus. Je veux dire, si tu demandes aux gens ce qu'est une centrale nucléaire, tu seras surpris parce qu'il y en a, ils savent même pas qu'il y a des éléments radioactifs qui la font fonctionner. Donc, qui est quand même le gros problème, hein, c'est voilà, parce que en France, il y a que 27 départements qui ont un registre des cancers, alors qu'il y en a plus d'une centaine, et donc il y en a où il y a des centrales nucléaires, il n'y a pas de registre de cancer officiel, hein, en tout cas. De ce qui fait qu'ils disent il n'y a pas de problème avec le cancer à radioactivité.
Moi, j'ajouterais que, en fait, quelles sont finalement votre question, elle rejoint. Enfin, moi, je la reformulerai d'une autre manière. C'est finalement, quels sont les outils concrets de cette fameuse résilience, en fait, qui nous abreuve chaque jour de ces soi-disant capacités à nous sauver, en fait. Eh bien, les outils, il y en a un certain nombre. Peut-être d'ailleurs qu'ils sont infinis, mais on peut en lister un certain nombre. En plus, ils vont varier selon les situations, mais j'en vois plusieurs. Je vois déjà l'outil qu'évoquait Philippe précédemment, effectivement, que je formulerai comme ça, c'est la fabrication de l'ignorance. La fabrication de l'ignorance, n'est-ce pas? Alors, je pense que ça, c'est un vecteur très important. Alors, soit en prenant les gens pour des andouilles, soit aussi fabriquer l'ignorance aussi, par exemple, en ne menant pas les... Alors, en n'ayant pas, effectivement, par exemple, avec l'absence patente de registre de cancer, ça, c'est de la fabrique de l'ignorance. Et c'est pas de la fake news. C'est fabriquer l'ignorance, tout simplement. Et ça, on l'a vu aussi après la catastrophe de Fukushima, fabriquer l'ignorance en n'investiguant pas un certain nombre de zones, en fait. C'est ce qu'on appelle créer des zones de non-savoir, de non-science, en fait. Bon, ça, c'est important. Fabriquer l'ignorance contribue c'est un outil de la résilience. Amener à la cogestion chacun. Alors, amener à la cogestion avant la catastrophe, mais surtout après la catastrophe, notamment en demandant aux gens, mais avant et après, d'apprendre à mesurer, par exemple. Apprendre à mesurer. Alors, il y a des vertus pédagogiques, mais c'est aussi très vicieux, parce que ça veut dire qu'en fait, on apprendre à mesurer la radioactivité, c'est apprendre... Bien sûr, c'est peut-être se donner les moyens de contester le pouvoir politique, mais c'est aussi apprendre aux gens à devenir des acteurs de la gestion d'une catastrophe si elle survient. Et on voit bien à Fukushima l'effet pervers que cet apprentissage a, puisque ça implique que les gens finissent par ne plus contester, en fait, la situation dans laquelle ils se trouvent et se contentent de mesurer au quotidien en évitant les points chauds et en vivant finalement sous des faibles doses la plupart du temps. Bon, donc fabriquer l'ignorance, amener à la cogestion, mettre en œuvre ce que j'appelle un racisme des émotions, ça c'est aussi un des outils principaux de la résilience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire apprendre aux gens à craindre la peur, à avoir peur de leur propre peur, à ne plus avoir peur donc. Alors bien sûr, il y a aussi une gestion par la peur, mais il y a aussi une gestion par la peur de la peur, ça c'est très important. C'est-à-dire, c'est ça qu'on explique aux gens à Fukushima. On leur dit, votre problème, c'est pas la radioactivité. Votre problème, c'est que vous avez peur de la radioactivité. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'un expert psychiatre qui va sur le terrain là-bas expliquait aux gens, il est important pour évacuer sa peur d'être exposé à la radioactivité. Vous voyez, il y a un renversement total de la logique.
Oui, c'est vrai qu'il y avait, je ne sais pas si c'était ce psychiatre. À Fukushima, il avait dit que les problèmes, c'était psychosomatique, qu'il n'y avait pas de problème avec la radioactivité, c'était les gens qui, dans leur tête, n'étaient pas bien, donc ils avaient peur de...
Voilà. Vous avez tout à fait raison, c'est le fameux professeur Yamashita qui... Le problème, c'est que ce professeur Yamashita, après tout, il est libre de dire n'importe quelle bêtise, comme tout le monde. Le problème, c'est que lui, il avait la responsabilité d'être le président de l'enquête sanitaire de Fukushima. Et dont il avait déjà exprimé les résultats avant même que l'enquête ait commencé, en disant « Mais de toute façon, on ne trouvera jamais de lien entre les cancers et les mesures que l'on fait. » Mais vous avez raison de rappeler ça, ce professeur Yamashita, dont j'ai ici quelques citations délicieuses. Il dit qu'il y a eu une épidémie de peur à Fukushima et non pas une épidémie de cancer. Il dit aussi à Fukushima, c'est la peur qui tue. Enfin, on pourrait continuer. Il dit, alors là, c'est encore mieux. Il dit, les effets des radiations n'atteignent pas les gens heureux et rieurs. Elles touchent les gens à l'esprit mesquin qui ruminent et se font du mauvais sang. Voilà. Alors, il dit encore, le stress n'est pas bon du tout pour ceux qui sont soumis aux radiations. Il met à bas le système immunitaire et peut donc provoquer des cancers et des pathologies non cancéreuses. C'est pourquoi j'ai recommandé aux gens de se relaxer. Effectivement, alors, ça paraît
là où c'est
visible.
Terrible, là où c'est terrible, c'est que dans ce qu'il dit, il y a quelque chose de vrai dans intrinsèquement. Oui, effectivement, le stress, tout ça, etc., oui. Ça permet de rester en bonne santé. Mais c'est terrible d'utiliser des phrases pareilles dans un tel contexte, en
oui,
fait.
Tout à fait.
C'est là où c'est terrible d'utiliser des phrases comme ça, on va dire des vérités. C'est comme des vérités qui enfoncent des portes ouvertes quelque part,
oui.
Mais qu'on va mettre dans cet endroit-là pour faire accepter. Ça, c'est moche.
Tout à fait. Et donc, il s'agit bien d'éteindre d'apprendre aux gens à éteindre leur peur pour mieux étreindre leur malheur, en fait.
Mm-hmm.
Ça, j'insiste là-dessus. Oui.
Ce qui est, j'avais vu il y a quelques années, un monsieur qui s'appelle Alain de Halleux, qui était allé au Japon, qui a fait un film. Et dans ce film, il montre bien qu'il y avait des appareils de mesure qui avaient été achetés aux États-Unis et ils avaient modifié l'étalonnage, ce qui fait qu'il y avait les doses de radioactivité étaient plus faibles que la réalité. Et puis, comme au Japon, quand même, c'est un pays où il y a des gens qui avaient des appareils, et ils avaient d'autres appareils qui ne montraient pas les mêmes doses, dont ils appelaient la boîte américaine, qui est venue sur place vérifier, et qui ont vraiment été furax, parce qu'on avait modifié l'étalonnage, ce qui fait que ça avait diminué, ce qui fait que la radioactivité était nettement moindre. Et ce qui prouve bien que s'ils avaient falsifié ça, enfin, s'ils avaient modifié ces appareils, c'est qu'il y avait un problème avec la radioactivité. Donc, c'est pas psychosomatique ou c'est pas des gens aigris ou autre.
Bien sûr.
Il y a une réalité. C'est là, bon. Ils sont allés jusque-là, quand même. Enfin, monsieur Yamashita, quand même, c'est le sommet. Après, pour la mesure, je dirais qu'effectivement, il faut se méfier sur la mesure, mais le réseau citoyen a été créé en 2017. Suite à un incident en octobre 2016 à la centrale de Golfech, où EDF, qui aurait dû informer l'ASN et la CLI rapidement, ne l'a pas fait. Et donc nous, on a dit, on va s'équiper d'appareils radex, parce que si jamais il y a un jour un nouvel incident, et d'ailleurs je tiens à préciser qu'ils ont été condamnés pour certains incidents d'octobre 2016. Bon, ils ont été condamnés pour une trentaine de milliers d'euros. Ça les fait rigoler, vu les sommes d'argent qu'ils balancent à droite et à gauche pour fabriquer le nucléaire. Mais bon, la réalité, c'est que on a, à partir de là, nous, on s'est dit, cette association, on a des radex, ils ne sont pas allumés en permanence, mais le jour où on a un copain qui mesure pendant une heure des niveaux élevés, il nous appelle, on sort tous nos radex en mesure. Et si tous on a des niveaux élevés, on informera la population, les élus qui n'ont pas été informés. Il y a même le maire de Golfech et de la Magistère sont des salariés de la centrale. À ce qu'ils nous ont dit, ils n'étaient même pas au courant de cet incident en 2016. Il faut le faire quand même.
Alors, nos auditeurs commencent à bien comprendre, hein, quand on parle de résilience, de quoi on veut parler maintenant. Alors n'oublions pas que cette soirée s'appelle aussi résistance et non résilience. Je voudrais parler un petit peu quand même à présent de la résistance. Comment on peut résister aujourd'hui face au nucléaire? Il y a une foi dans le capital qui est galopante, hein, ça, force est de le constater pour tout le monde. À tout ça, en plus, on y rajoute une petite dose de greenwashing avec l'histoire de l'énergie nucléaire soi-disant zéro carbone et l'invasion de voitures électriques qui sont en train d'arriver non seulement sur le territoire français, mais c'est sur l'ensemble des territoires. Et donc, ça va nous amener à devoir produire toujours plus d'électricité. Alors, comment on fait pour entrer en résistance dans un tel tableau ?
Alors, moi, j'ai pas de recette pour la résistance, évidemment, mais par contre, encore une fois, je vais me référer à ce que je connais d'expérience, en fait,
oui.
Par rapport à la situation au Japon.
Alors, comment ils ont fait, eux, pour entrer en résistance,
alors,
déjà ?
Je crois que le problème, c'est que... D'abord, il faut pas se cacher que... S'il y a eu une résistance dans le contexte japonais, Là, je parle de la résistance après la catastrophe, en fait. Malheureusement. Et alors, il y a bien sûr eu, il y a une, toujours une résistance au nucléaire au Japon, même avant la catastrophe de Fukushima, mais elle a toujours été, bien sûr, complètement écrasée, annihilée par... par les autorités pour des raisons. Alors, il faut quand même préciser que le rouleau compresseur en face, il n'est pas que d'ordre marchand et capitalistique. Enfin, même si, bien sûr, il est de cet ordre-là aussi. Enfin, c'est pas seulement une question de lobby. Même si, encore une fois, je dis pas qu'il y a pas de lobby. Hein, on pourrait même parler. Moi, je n'hésite pas. D'ailleurs, au passage, j'ai absolument aucune peur de parler d'un complot nucléaire, de la même manière que Robert Proctor aux États-Unis, politologue et sociologue, parle depuis des années d'un complot de l'industrie des cigarettes, de l'industrie du tabac, au sens où, en fait, il y a bien des collusions entre l'industrie et les pouvoirs publics sur pour défendre une filière ou une autre. Ça peut être le tabac, la betterave à sucre ou le nucléaire. C'est le même combat. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est un complot pédophile dont les ficelles sont tirées par des pédocriminels d'origine israélite. Hein.
Non, ce n'est pas de ça dont on parle.
Mais
c'est pas de ça dont on parle, voilà, on est bien d'accord. Hein.
Mais il y a bien des collusions. Mais toutefois, il n'y a pas que ça. Il y a aussi, articulé à ces collusions, il y a aussi des ressorts géostratégiques fondamentaux, d'autant plus importants dans le champ du nucléaire que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Philippe, le nucléaire civil et le militaire, c'est pas sans lien. Et donc, au Japon, ça, c'est pas une histoire abstraite. C'est bien le problème du Japon, c'est que son nucléaire, il se l'est fait parachuter, entre guillemets, par les Américains après, quelques années, une décennie après les bombes d'Hiroshima et de Nagasaki. Ce sont les Américains qui ont introduit, qui ont amené le Japon à introduire le nucléaire civil, ce qu'ils appelaient le nucléaire pour l'atome pour la paix, a été amené sur un plateau par les États-Unis au Japon. De quelle manière? En achetant, en garantissant à certains criminels de guerre nationalistes japonais de ne pas être condamnés à mort en échange de leur médiation et de leur capacité à influer l'opinion publique japonaise pour lui faire accepter à cette opinion le déploiement des centrales nucléaires civiles. Sinon, il n'y aurait pas eu ces centrales, en fait, s'il n'y avait pas eu cette intromission américaine. Donc, et pourquoi les Américains voulaient ça? Et pourquoi les Japonais ont répondu positivement? Parce qu'ils ont un point d'accord, malgré leurs désaccords fondamentaux, ces deux pays-là. Ils ont un point d'accord, c'est la haine de la Chine et de la Russie, et de l'URSS à l'époque. Et la crainte et la haine. Donc ça a été l'argument qui a pesé. Donc le Japon est sous le parapluie nucléaire américain. Et c'est la même mécanique, le même ressort qui a joué après Fukushima, qui a fait que le Premier ministre Noda avait annoncé après la catastrophe que le Japon sortirait du nucléaire. En fait, il y a eu un changement de gouvernement qui a amené qui a mis en place la mesure inverse, c'est-à-dire de prolonger le nucléaire, voire même de le développer au Japon. Bon, mais pour dire que, en fait, donc il y a toute cette mécanique qui fait, il y a la mécanique du lobby, il y a la mécanique de la géostratégie, qui tous ces ressorts qui ont amené au développement du nucléaire. Mais je ne sais pas si j'ai répondu à...
Pas tout à fait, je demandais comment on entre en résistance.
Alors, par rapport à ces... Voilà. Donc, face à ces ressorts, vous vous doutez bien que la résistance, dis donc, il faut qu'elle résiste bien. Hein.
Ah ben oui.
Parce que franchement, elle n'a pas tenu. Et après la catastrophe, le problème, c'est que la résistance a bien eu lieu, puisqu'on a vu des manifestations massives, on a vu des réseaux se mettre en place, on a vu des citoyens se mobiliser de mille manières pour lutter, pour refuser le prolongement de ce nucléaire meurtrier qui venait, on sortait à peine de la catastrophe. Et en fait, le problème, c'est... Les mêmes ressorts, je viens de le dire, géostratégiques ont encore joué. Donc la légitimation du nucléaire à travers la géostratégie a encore joué. Et autre élément fondamental qui a permis, je dirais, on parlait tout à l'heure, on a utilisé l'expression « faire avaler les couleuvres ». Bon, mais soyons plus précis. Eh bien, il a bien fallu faire... Le Japon n'est pas une dictature. Hein, c'est une démocratie. On a beau... on n'est pas en Chine. Bon. Et donc, il a bien fallu faire avaler cette couleuvre de la reprise du nucléaire après Fukushima. Eh bien, malgré les résistances qu'on a vues émerger après la catastrophe, des résistances très importantes, les millions de gens, des gens qui n'avaient jamais été contre le nucléaire, qui se retrouvaient dans la rue à scander des slogans anti-nucléaires, etc. Eh bien, c'est la politique de résilience qui a justement mis tout ça par terre, en fait.
Oui, oui. Avec le changement climatique, comme levier un petit peu.
Aussi, vous avez raison, tout à fait. Et en désunissant les gens aussi, en délégitimant les positions les plus radicales qui demandaient d'arrêter. Et au nom de la survie économique, au nom du maintien de la situation de protection américaine en matière nucléaire, etc. Donc la résistance a bien eu lieu, mais je dirais elle a été minée par cette politique de résilience. C'est pourquoi je dis et répète que quelle que soit la situation, et en France y compris, et quelle que soit la catastrophe, en profil ou qui arriverait véritablement, il faut absolument lutter contre cette notion de résilience. Je pense que c'est devenu un nerf de la guerre pour le pouvoir, puisque c'est la nouvelle croyance de l'État, en fait. C'est une nouvelle philosophie d'État, une nouvelle métaphysique d'État, en fait. Hein. C'est la volonté de l'État de nous embarquer dans une société qui prône un survivalisme étatique, en fait.
Oui, c'est aller droit dans le mur, et en disant on va droit dans le mur, mais bon, on n'a pas le choix, les gars.
Tout ça fondé sur des thèses de l'effondrement, etc. Eh bien, moi, je dis, il faut commencer, vous parliez de résistance. Pour moi, la résistance... elle doit commencer aussi, elle doit avoir lieu aussi sur le champ des notions, et notamment démonter à chaque fois qu'elle surgit, cette notion de résilience, la dénoncer, la démonter, montrer en quoi c'est une idéologie de l'adaptation, c'est une arme d'adaptation massive qu'il faut absolument désamorcer. Excusez-moi, mon propos n'est pas très concret. Il renvoie plus à des choses qui se situent sur le champ des notions. Mais toutefois, je pense que c'est important. Après, concrètement, ce que je peux répondre, très concrètement, par rapport à la situation de Fukushima, une situation d'accident nucléaire, on l'a dit tout à l'heure, mais il faut le redire, la résistance véritable, c'est de fuir. Pourquoi ?
Parce que c'est un moyen de rester en vie.
Alors, d'une part, il y a préserver sa santé. Parce que croire qu'on puisse être résilient face à la radioactivité, c'est quand même une aberration, même si une aberration que même la science ne soutient pas, en fait. Donc c'est un certain nombre de gens qui soutiennent ça parce qu'ils font des c'est du même acabit que lorsque les cigarettiers internationaux vous disent qu'en fait mais non ils produisent de la science en disant mais non en fait le tabac c'est pas vraiment mauvais pour la santé, ça c'est un peu des histoires, etc. Là on est dans l'invention totale. Bon, sauver sa santé, préserver sa santé, fuir pour préserver sa santé, et aussi fuir pour montrer qu'en fait, pour montrer collectivement qu'en fait, quand il y a un accident nucléaire quelque part, créer un vide dans une zone, c'est créer une déflagration économique et montrer qu'en fait, un accident nucléaire, ça a des conséquences. Ça a des conséquences qui sont insurmontables.
De toute façon, ne nous l'aurons pas. Hein. Ce que j'ai dit à cette soirée, j'ai dit, mais quand il y a eu l'accident de AZF à Toulouse, moi j'étais pas à Toulouse, j'ai des amis à Toulouse, il y avait pourtant plus d'éclairage, il n'y avait plus rien et tout. Tous les parents sont sautés dans leur bagnole, sont allés chercher leur gamin, et c'était un souk terrible. Et ça sera pareil pour le nucléaire, ça se saura. Alors qu'il y a des consignes. C'est n'allez pas chercher vos gamins à l'école, véridique. Hein. Mmh. N'allez pas chercher vos gamins à l'école, etc. C'est un truc délirant. Moi, j'ai dit à cette réunion, vous êtes sûr que les parents n'iront pas chercher leurs gamins à l'école ou... Je lui ai dit, mais vous délirez, je me dis, complètement.
C'est un réflexe de survie automatique de tout le monde.
Ben oui, tu vas chercher les...
chercher les tiens, quelque part.
Les proches, ceux que tu aimes, tu vas les chercher et tu vas tenter de les mettre à l'abri. Mm-hmm.
Oui, je dirais que c'est une un comportement tout à fait rationnel dans une situation qui est irrationnelle. Il ne faut pas inverser les choses. Ce qui est irrationnel, c'est l'atome. Et ses nuisances.
Oui, voilà.
Ce n'est pas les comportements de peur.
Ce n'est pas aller chercher ses enfants à l'école quand il y a un accident. C'est pas ça.
Ce n'est pas la panique et la peur. Et encore moins, bien sûr, la colère. Parce que toute la question... Bon, excusez-moi, je passe du coq à l'âne, mais toute la question de la résilience, c'est quoi ? C'est le nouvel outil, ce n'est pas le dernier. Ce n'est pas le premier, ce n'est pas le dernier, mais c'en est un. Et c'est pour ça que je propose de l'attaquer et de le démanteler. C'est un nouvel outil qui permet, en fait... Enfin, qui tente d'étouffer complètement, de tuer, je dirais, dans l'œuf, toute forme de colère, toute forme de peur, toute forme de colère, et donc la révolte. C'est pour ça que je dis que fuir, c'est un acte de résistance, parce que c'est une, dans une situation de catastrophe nucléaire, parce que c'est une manière de montrer qu'en fait, il y a bien des conséquences. Et on ne peut plus les nier à partir du moment où une zone est vidée. Là, les conséquences les conséquences de l'accident ne peuvent plus être niées comme le font communément les pouvoirs publics. Je voudrais dire simplement qu'en fait, finalement, un acte de résistance, je pense que, en fait, il est beaucoup plus facile, infiniment plus facile de quitter une zone contaminée que de quitter un corps qui est malade.
Oui, oui, complètement. Je comprends complètement ce
oui,
qui
après,
est dit.
Après, je dirais qu'à Tchernobyl, ils ont évacué les populations, un paquet de monde. Hein. Il y a une zone encore très importante qui est interdite. Alors, Fukushima, ils veulent les faire revenir, mais ils n'ont pas trop envie. Donc, je veux dire, il n'y a qu'en France où ils voudraient nous faire croire qu'ils ne vont pas bouger les populations, elles bougeront d'elles-mêmes. Hein. Ça, c'est clair. Hein. À une époque, il y avait un bruit qui courait, comme quoi ils fermeraient ces zones, ils empêcheraient les gens de sortir en mettant la gendarmerie mobile, etc. Ça montre bien le caractère antidémocratique du nucléaire. Le nucléaire, c'est pas une énergie, c'est l'omerta, le mensonge, le secret, et mais on le voit, hein, quand il y a des incidents qui sont pas majeurs, mais des incidents des centrales nucléaires, on l'apprend très tard. Il faut, dans certains cas, il faut que ce soit des salariés de la centrale qui disent, bon, là, on n'est pas d'accord, notre directeur, je crois que c'est Autry Castin, là, il y a un ingénieur qui s'est fait taper sur les doigts, mais il a dit ce qu'il avait à dire, hein, comme quoi il y avait des conditions de sécurité, des pratiques de sécurité qui n'avaient pas été respectées et que ça posait quand même un gros problème.
Je voudrais témoigner, parce que il faut aussi dire les choses concrètement, vous avez tout à fait raison, vous parlez de cette idée, cette rumeur selon laquelle les militaires interviendraient dans une situation en France de catastrophe, etc. Moi, je ne sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est qu'au Japon, au moment de la catastrophe, c'est les blindés qui sont allés dans les 20 kilomètres, qui sont allés aux portes des maisons des habitants. Les habitants sont sortis de leurs maisons parce que, bon, il y avait le tremblement de terre et les raz de marée qui venaient d'avoir lieu. Hein. Oui. Ils sont sortis de leurs maisons, ils n'avaient plus rien à manger. Ils croyaient que les militaires dans les blindés venaient leur apporter des nourritures.
Then.
Pas du tout. En fait, là, c'est des témoignages que nous avons recueillis hein, là-dessus. Ils sont pas dans le film, hein, parce qu'on, bon, pour des raisons techniques, enfin des raisons éthiques, qu'on n'a pas pu, les diffuser. Mais là, j'ai publié là-dessus, par ailleurs, dans la presse écrite, pour ces témoignages qui en fait expliquent qu'en fait, les blindés sont venus à la porte de chez des gens pour leur dire, vous ne sortez pas. Donc là, il y a bien une coercition. Il y a effectivement une antidémocratie structurelle. Il y a un caractère antidémocratique structurel dans le nucléaire et sa gestion. Après, bien sûr, il y a des gens qui ont quand même réussi à fuir parce que les militaires étaient eux-mêmes dépassés par l'ampleur de la triple catastrophe. Hein, bon, mais on peut tout à fait imaginer qu'une coercition solide se met en place au moment d'une catastrophe en France, oui. Oui, oui. Et je pense que ce sera certainement le schéma qui sera adopté. Quand on voit déjà la coercition dont l'État est capable lorsqu'il y a des gens qui envahissent des ronds-points avec des gilets jaunes et la manière dont ces gens s'en prennent plein la tête, on peut se douter qu'en cas de catastrophe nucléaire, la coercition sera encore pire.
Thierry, quelque chose à rajouter pour terminer cette discussion ?
Non, ben, j'espère que simplement... Je pense qu'il faut absolument que nous débattions collectivement, que nous prenions conscience des nouveaux outils l'État, les pouvoirs publics, mais adossés à certaines industries nocives, mettent en œuvre pour en fait travailler sur les consciences. Je crois que le grand changement, c'est que désormais, pour administrer les désastres, on ne va plus, les autorités ne vont plus seulement s'en référer au domaine technique, au champ technique, mais les autorités vont de plus en plus se concentrer sur l'administration des sentiments, des émotions que nous ressentons face à ce désastre. Leur grand objectif, je pense, se situe là, c'est-à-dire, la politique de résilience vise explicitement à ça, à administrer la passion des individus, les émotions des individus, la peur, la colère, tous ces sentiments qui sont jugés négatifs et qui sont même considérés comme des pathologies. On l'a vu encore avec AZF, mais on l'a vu avec Lubrizol à Rouen, etc. Où en fait les autorités se sont déplacées, il y avait un grand nuage noir au-dessus de Rouen, et le ministre disait, eh bien, il faut que les populations cessent d'être anxieuses. Comme si le problème c'était l'anxiété, c'était pas le nuage noir qui passait derrière. Voilà.
Je dirais, ce qui était formidable, c'est moi j'ai vu un documentaire là-dessus là dernièrement. Il y avait le préfet sur place qui disait « il n'y a pas de problème » et il y avait la ministre de la Santé disant « il y a un gros problème de pollution ». C'était voilà.
Oui, mais c'est la double pensée constante, effectivement. Je crois qu'il faut, vous parliez de résistance, nous devons cesser d'accepter cette idée selon laquelle nous ne serions libres que d'obéir et selon laquelle également nous serions condamnés à résilier. Non, nous ne sommes pas condamnés à résilier. Voilà.
Et terminons enfin pour... n'oublions pas qu'une des premières formes de résistance que l'on peut avoir, c'est ne pas consommer d'énergie. Toute énergie non consommée est une énergie non produite. Et si on était plus aussi dans une sobriété de consommation, on aurait moins de soucis. Voilà, terminons comme ça. Merci beaucoup en tous les cas.
Merci.
Et donc, bonne soirée à vous tout à l'heure.
Au revoir.